Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver à ce micro. Vous le savez plus que jamais, dans un contexte, une organisation, un quotidien transformé par la crise sanitaire. Alors que l'Europe est confrontée à une deuxième vague épidémique plus sévère que la première, plus de 36 000 personnes sont décédées du Covid-19 en France. Dans cette période de bouleversement, le deuil a été une épreuve, elle aussi traversée dans des conditions complexes, deuil contrarié, voire deuil interdit. Pendant le premier confinement du printemps dernier, il a été difficile, parfois impossible, de dire au revoir à ses proches emportés par les complications du virus. Aujourd'hui, trois jours après l'entrée en vigueur du nouveau confinement, les cimetières sont restés ouverts pendant la Toussaint, période d'hommage aux défunts pour les chrétiens. Alors, comment faire face à ces deuils entravés? Comment surmonter la peine, le sentiment de culpabilité, parfois la colère? Quelles conséquences pour les familles et les proches? Quel impact aussi pour les soignants qui ont dû se résoudre dans les EHPAD et les hôpitaux à ne prodiguer aucun soin funéraire ou à trier les patients en partance vers les services de réanimation? Témoignage aujourd'hui de familles endeuillées, d'une infirmière, d'un travailleur des pompes funèbres et d'une psychothérapeute. Priorité santé Covid, deuil impossible. C'est un reportage signé Charlie Dupiot. Charlie Dupiot, bonjour.
Bonjour.
Alors en France, 85% des malades décédés du Covid avaient plus de 70 ans. Et parmi ces décès liés au nouveau coronavirus, près d'un tiers ont eu lieu dans des EHPAD, maisons de retraite ou établissements médico-sociaux.
Oui, on parle là de 11 600 décès. Sébastien, 49 ans, a lui perdu sa mère au mois d'avril, au cœur de la première vague en France. Jusqu'à la fin, il n'a pas pu lui dire au revoir comme il l'aurait voulu.
En fait, maman était dans un EHPAD à Aubervilliers, un EHPAD privé. Nous, on la voyait avec mon frère, on la voyait tous les jours, donc un jour sur deux, on y allait, ce qui permettait qu'elle décroche pas trop, parce qu'elle avait 89 ans. J'ai reçu un mail de l'EHPAD qui disait que suite au Covid et de tout ce qui se passait, l'EHPAD fermait, se confinait, quoi. On n'avait plus le droit de venir. Bon, dur, ok, pourvu que ça dure pas trop, quoi, mais donc je l'ai appelé. Et donc tout allait bien. Je lui ai dit on peut pas venir en ce moment de voir, mais j'ai essayé de lui expliquer. À 89 ans, elle avait beaucoup de pertes de mémoire. Elle était très très dépendante au sein de l'EHPAD. Parfois, elle prenait des gens pour des gens de la famille. Elle revoyait mon père qui était mort 6 ans avant. Il y avait un infirmier qui avait un petit peu le physique de mon père. Donc des fois, elle me dit papa, il est tu l'as vu, il est dans le couloir là. Tu me diras si tu le vois quand même. Ah, c'était bien rigolo.
Et donc, vous ne pouviez pas la voir à partir du début mars. Comment ça s'est passé la suite du confinement?
Là, on s'est mis à tous appeler tous les jours. Parce que moi, on est 4 enfants. Et au bout de 10 jours, on a compris que c'était... on la perdait complètement, quoi. Parce que même quand quelqu'un lui décrochait le téléphone, on entendait... C'était presque des grognements. C'était... On lui posait des questions, puis on n'avait pas des mots en réponse. On était face à quelqu'un qui était au lit, notre mère qui était au lit et qui était plus très consciente, qui était plus là, quoi.
C'était la première fois qu'elle était dans cet état-là.
Ah, mais aussi loin, oui. Et là, je me suis dit, il va falloir qu'on trouve un moyen de rentrer dans la citadelle parce qu'on va plus la voir, quoi. On va plus jamais la voir. Et elle ne va plus nous voir. Elle va juste partir comme ça, enfermée dans sa chambre sans rien comprendre. Et il se trouve qu'à ce moment-là, l'EHPAD a envoyé un mail à toutes les familles de résidents pour demander s'il y avait quelqu'un qui voulait bien se porter volontaire pour venir tenir une tablette, pour faire du Skype, pour recréer du lien entre les résidents de l'EHPAD et leur famille, ce qui paraissait essentiel et c'était une super idée. Seulement comme ils étaient débordés, qu'ils n'avaient plus autant de soignants, etc., parce que beaucoup étaient en arrêt maladie. Et donc moi je me suis dit là c'est un moyen de voir maman et puis en plus d'être utile pendant cette période où t'es là à la maison, tu cherches comment être utile mais tu sais pas quoi faire, quoi. Donc je suis allé à l'EHPAD le lendemain après-midi, Ce vendredi où j'ai rencontré le directeur et la sous-directrice pour qu'on parle un petit peu de la mission Skype, etc. Après notre rendez-vous, ils m'ont proposé de monter voir ma mère au troisième étage pour la première fois depuis deux semaines et demie, trois semaines qu'on ne s'était pas vu. Ouais. Il y avait tout plein de choses à faire, désinfection, chaussons, surblouses, bonnet de chirurgien, masque... lunettes, gants, latex, etc. quoi. Et là, on te laisse rentrer dans la chambre. Bah, c'est un petit peu un choc parce que tu te retrouves face à ta mère qui est très loin et à tenir la main de ma mère, quoi, avec des gants latex, à pouvoir la caresser, à pouvoir la masser un petit peu, ce que personne ne faisait parce qu'ils n'avaient pas le temps, quoi. Et donc, j'ai pu rester avec elle et à parler, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es avec un proche que tu sens partir, tu lui rappelles des bons souvenirs, quoi. Tu revis les bons moments avec elle, quoi.
Vous saviez que c'était le moment de lui dire au revoir.
Ouais. Comment tu amènes du réconfort à quelqu'un qui est sur la faim? Mais j'ai pu parler de notre enfance au Sénégal, du marché où elle allait acheter des fleurs, de plein de choses qui étaient des très bons souvenirs pour elle, quoi. J'ai appelé mes frères et sœurs par vidéo. Tu sentais qu'elle regardait pas.
Elle ne voyait plus très bien.
Bah, elle ouvrait pas les yeux à ce moment-là. Il y a eu une fois où vraiment elle a regardé l'écran, c'est quand je lui ai amené et j'y suis retourné avec un message enregistré de ma fille qui a 3 ans, qui lui disait « Grand-mère, je t'aime !» Et là, elle a ouvert les yeux en grand, mais immense, quoi. Allongée dans son lit, avec les yeux immenses. Je lui ai passé 8 ou 10 fois à la suite, et elle a gardé les yeux ouverts. Et là, elle les a refermés, quoi. Bon, et elle est morte le jeudi suivant. Le lundi, je devais y aller. Et là, le soignant m'a dit, écoutez, on a monté votre mère au 5e étage parce que elle avait de la fièvre hier. Le mardi, ils nous ont dit, en fin de journée, qu'elle avait le Covid. Mais apparemment, elle n'a pas eu de détresse respiratoire ou de problème de respiration. Elle est morte de fatigue, quoi. Elle n'a pas eu ces étouffements horribles que je pense certaines personnes ont pu avoir.
Et alors ensuite, comment ça s'est passé? Comment vous avez pu gérer le deuil et puis les funérailles?
Tout était confiné. Alors une fois que maman est morte, on n'avait plus le droit de la voir. Je ne sais pas, il y avait des histoires à l'époque qu'on nous disait que les corps étaient encore plus contagieux que les vivants. Je ne sais pas si c'était des vraies nouvelles, on ne savait pas trop à l'époque ce qui se passait vraiment. Et donc, on n'a pas pu la voir. Moi, ils m'ont urgé d'engager des pompes funèbres pour qu'ils viennent lever le corps. Moi, je suis en contact avec les pompes funèbres qui m'expliquent un petit peu comment ça va se passer. Votre maman, elle part dans les frigos de Rungis. Ok, c'est sympa, c'est sexy. Et voilà, après, il y avait tout un temps d'attente parce qu'il fallait qu'elle soit incinérée. Parce que de toute façon, ouais, parce que nous, on voulait qu'elle soit enterrée dans le Jura avec mon père parce qu'elle avait creusé une tombe. Mais tu n'allais pas transporter un corps à 400 km d'ici, quoi. Je pense que ça, c'était pas faisable. Je n'ai même pas demandé, à vrai dire.
Et alors, qu'est-ce que vous avez organisé en famille, justement, pour vraiment commencer, ouais, peut-être le deuil?
On a attendu encore un mois et demi avant qu'on nous rende les cendres. Mais on a pu, oui, on a pu enterrer maman dans le Jura. Donc, avec mon frère d'Aubervilliers, ma sœur d'Angleterre, ma femme, ma fille... Et de la famille locale du Jura, quoi, de quelques cousins. On était quand même une quarantaine, une cinquantaine, ce qui était... Et c'était une belle journée, on a bien dîné, on a... Non, c'était important de le faire. Pour moi, c'était très important de le faire, ouais. Tu rends hommage et tu célèbres la vie de quelqu'un, quoi, pour l'accompagner.
Et aujourd'hui, vous diriez que vous en êtes où, de votre deuil?
Aujourd'hui, mon deuil, il pourrait être terminé, en fait. On passe par différentes phases. On peut avoir de la tristesse, de l'incompréhension. On peut avoir plein de choses, de sentiments comme ça mélangés ou qui viennent les uns après les autres. Et puis il y a la colère. On n'a pas pu voir ma mère une fois qu'elle était morte. On n'a pas vu un corps. On n'a pas. Et donc une fois qu'elle est partie, j'ai écrit à l'EHPAD pour remercier les soignants et pour demander à l'EHPAD comment est-ce qu'on gère la suite en dehors du fait que maman est partie. Sa chambre, où elle avait des très jolis meubles à elle, beaucoup de cadres au mur, des peintures d'elle. Et donc ce mail est resté sans réponse pendant un mois en fait. Vider la chambre, c'était un dernier geste, c'était sa chambre, c'est son environnement. Et donc au bout de 3 semaines, je les ai relancés. Je leur ai dit, je voudrais venir chercher les affaires de maman, comment on fait? Et là, se passe quelques jours, puis j'ai enfin une réponse. Vous pouvez venir, on vous préparera les affaires. Ah bon? Et on arrive à l'EHPAD, et ils nous emmènent dans une des salles communes qu'il y avait là. Je fais, attendez, moi je viens ranger la chambre de maman, et je viens la ranger, quoi. Je viens dire au revoir à ma mère, je viens ranger ses affaires, etc. Là, vous me donnez des sacs poubelles, c'est quoi? Ah oui, c'est les affaires de votre mère, tout est dedans. 4 gros sacs poubelles noirs, tout déchirés, des sacs poubelles, quoi. Et la colère, là, pour le coup, elle est vraiment dure à gérer, quoi.
Colère contre la direction de l'EHPAD, où sa mère était résidente. Colère aussi contre la situation et cette impossibilité de la voir, et ce, jusqu'à la fin.
Oui, Sébastien a pu voir sa mère à plusieurs reprises au cours du premier confinement, ce qui n'a pas toujours pu être le cas pour d'autres proches de personnes décédées en EHPAD. Le choix d'ouvrir les portes aux familles quand le résident était en fin de vie dépendait en fait du directeur des établissements en question. Alors on sait aussi que l'isolement a contribué à la surmortalité en EHPAD. On parle notamment du syndrome de glissement. La personne âgée voit son état général se détériorer. Elle est soudain désorientée, ne s'alimente plus, perd ses repères, sa force de vie. Alors à partir de début mars et pendant au moins 6 semaines, les EHPAD ont interdit les visites des proches pour freiner la propagation du virus auprès de cette population vulnérable. Et les visites ont pu reprendre vraiment normalement à partir du 22 juin. On pouvait alors à nouveau voir les résidents dans leur chambre et sans rendez-vous. Emmanuel Macron l'a affirmé mercredi soir lors de l'annonce du deuxième confinement en France. Les visites vont rester autorisées dans les EHPAD et les maisons de retraite pour éviter, je cite, que ne se nouent les drames humains que nous avons vécus au printemps, où des personnes en fin de vie se retrouvent totalement isolées. C'est ce qu'a dit le président de la République. Marie de Hennezel est psychologue et psychothérapeute. Elle travaille beaucoup autour des questions de fin de vie et de dignité. Elle vient tout juste de publier « L'adieu interdit » aux éditions Plon. Dans cet ouvrage, elle remet en cause ce qu'elle considère comme une folie hygiéniste qui, en voulant protéger les personnes âgées, leur a imposé pendant toute cette période, un sort qu'elle qualifie d'inhumain, de même qu'à leur famille.
J'ai eu 2 témoignages extrêmement, je dirais, opposés. Cet homme qui effectivement n'a pas pu aller dire au revoir à sa mère, interdiction donc au début du confinement, d'entrer dans l'EHPAD, de pouvoir dire au revoir à sa mère, qui a su que sa mère était morte, donc que son cadavre avait été mis dans une housse, envoyé à Rungis, et il n'a pas pu assister aux obsèques, et donc cet homme dit qu'il ne s'en remet pas, et qu'il s'en veut terriblement de ne pas avoir justement peut-être osé transgresser l'interdiction de visite. Au contraire, une autre femme, alors là c'est le témoignage d'une directrice d'EHPAD qui me dit qu'une femme qui a beaucoup insisté pour dire au revoir à sa mère et qui est arrivée aux portes de l'EHPAD, cette directrice m'a dit que humainement elle ne pouvait pas ne pas la laisser rentrer, qu'elle l'a équipée, qu'elle l'a accompagnée, et elle a été témoin de ce regard d'angoisse extrême de cette mère qui sent qu'elle vit ses derniers moments, tendue, les bras tendus vers sa fille, et la fille masquée s'est précipitée dans les bras de sa mère et l'a serrée très très fort.
Et sa mère était atteinte du Covid.
Elle était atteinte du Covid. Cette directrice d'EHPAD m'a dit, mais je laissais faire. Et je suis contente d'avoir fermé les yeux parce que je ne pouvais pas empêcher ce moment-là. Et la fille n'a pas attrapé d'ailleurs le Covid, et la fille, elle aussi, était très heureuse d'avoir osé ce geste. Voilà, 2 témoignages, vous voyez, à l'opposé. L'un va avoir un deuil quasiment impossible à faire, en tout cas très très long et très compliqué, et l'autre, eh bien, est heureuse d'avoir serré sa mère une dernière fois, et c'est ce qui va la porter dans son deuil.
Et d'ailleurs, vous citez l'ethnologue Boris Cyrulnik qui disait fin mars sur le plateau de France Inter, on n'a pas le droit d'être heureux quand on a laissé nos parents mourir tout seuls, on s'abîme nous-mêmes, on se punit.
Et aujourd'hui, mes collègues psy sont, ont leur cabinet rempli de personnes qui n'ont jamais fait appel à un psy avant, qui sont des personnes qui ont vécu justement une impossibilité de dire au revoir, qui sont bourrées de culpabilité parce qu'elles se disent « qu'est-ce qui m'a empêché d'aller frapper à la porte de l'EHPAD et d'exiger de dire au revoir à ma mère ?» Parce que d'autres l'ont fait. Quand les gens ont eu le culot, je dirais, d'insister à la porte des EHPAD, on leur a ouvert, on les a équipés, et on les a accompagnés dans la chambre pour pouvoir dire au revoir. Donc, d'autres n'ont pas osé faire cela, s'en veulent énormément. Et c'est vrai que ce sont des deuils quasiment impossibles à faire. Mais on n'a jamais vu ça. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu une décision politique et sanitaire empêcher un proche d'aller dire au revoir à un proche mourant quand on sait qu'il vit ses derniers moments. Moi, je salue des soignants qui, pleins de créativité, ont essayé de faire au mieux. Et moi-même, d'ailleurs, sur une plateforme dirigée vers les soignants des EHPAD, j'ai dit qu'il fallait très tôt prévenir les familles, leur demander d'enregistrer un au revoir, que l'on puisse diffuser à l'oreille, effectivement, du mourant, parce qu'une voix, c'est une présence, c'est mieux que rien. Dans certains EHPAD, on s'est ingénié à trouver la façon de permettre aux personnes de dire au revoir.
Par téléphone ou en passant des messages vocaux enregistrés.
C'est ça. Alors, la difficulté, c'est que des personnes qui sont mortes du Covid, c'était des agonies extrêmement rapides. Donc parfois, on n'avait pas le temps de prévenir les familles. Et ce que je vois dans les deuils impossibles, ce sont ces familles à qui on a interdit des visites et puis qui ont appris brutalement la mort de leurs parents âgés, parce qu'ils s'étaient décompensés très très vite. Là, on arrive à la période de la Toussaint. C'est vrai que la Toussaint, qui est ce moment de l'année où on repense à ses morts, et où on va au cimetière, on va porter des fleurs, eh bien c'est un moment, justement, pour organiser des rituels. Et je pense que des familles qui n'ont pas pu dire au revoir, même aller aux obsèques, peuvent se réunir au moment de la Toussaint, dans un endroit de leur choix, mettre une photo, je dirais faire comme si, faire une sorte de funérailles différées, c'est-à-dire parler du mort, témoigner, de façon à guérir la famille entière. On peut parler à cette personne, on peut lui écrire, on peut lui dire tout ce qu'on aurait aimé lui dire et qu'on n'a pas pu lui dire. Tout cela est symbolique, bien sûr, hein, nous sommes dans le champ du symbolique, mais c'est très important pour la paix des survivants. Ça fait partie de notre vie, hein, de pouvoir dire adieu à des parents avant leur mort. Et ça, je crois que pour la suite, pour ce qui va se passer maintenant, il faut absolument qu'on ait compris cela. On ne peut pas empêcher des proches, et même des petits-enfants, je dirais, de dire au revoir, de venir dire au revoir à un parent âgé. Thank you.
médias que se me de confiança, não era mais risonho. Olhar de nós criança, da torna brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada, temporal talvez da mainã. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta.
C'était Yamoré de Salif Keïta et Césaria Evora sur RFI. Priorité santé, reportage. Covid-19, le deuil impossible. Témoignage recueilli par Charlie Dupio. Et Charlie, vous ouvrez à présent votre micro à celles et ceux qui ont été sur le front et le sont encore aujourd'hui. Les premiers à faire face à la maladie, à la mort, ce sont bien sûr, Charlie, des soignants dont on parle.
Oui, Annabelle est infirmière depuis 8 ans dans un hôpital de l'APHP, l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Elle travaille en médecine interne depuis 1 an. Elle nous raconte comment elle a vécu la première vague au printemps et les dilemmes imposés à son équipe à cause de la surcharge des services, notamment en réanimation.
Moi, j'ai un patient qui m'a marqué et qui m'a perturbée et bouleversée. Dans ce moment-là où il y a eu beaucoup d'angoisse de la part des patients à gérer, il avait 78 ans, je crois. Mais il avait beaucoup de facteurs de risque, de comorbidité cardiovasculaire. Il était pas en très bonne santé, ce monsieur. Il est arrivé à 16h et il est décédé à 23h. C'est allé très 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 vite. Il m'a un peu perturbé, ce monsieur, parce que il savait très bien ce qui allait se passer. Et quand je lui ai dit à demain, parce que c'était sur la fin de mon service, et donc je suis repassée le voir juste avant de partir... parce qu'il était inquiétant d'un point de vue de la santé. Et juste avant de partir, je lui ai dit à demain. Il m'a dit, vous savez qu'on ne se reverra pas demain. Mais il était très serein et ça m'a un peu perturbée parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui me dicte la suite des événements. Quoi.
Vous saviez que vous ne le verriez pas demain.
Je savais que je ne le reverrais pas le lendemain, mais c'était une manière de le rassurer que de lui dire à demain. Et en fait, il était plus serein que moi par rapport à ça. Vraiment serein face à la mort, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez répondu ?
J'ai pas répondu. Je crois que je lui ai fait un sourire derrière mon masque et j'espère qu'il l'a vu. Et puis je suis partie. Mais c'était un peu perturbant. Alors nous, on a ouvert nos premières unités Covid autour du 15 mars. Donc on a été dans les premiers services à ouvrir. On a un peu tâtonné au début. Donc ça a été les 10-15 premiers jours qui ont été un peu compliqués. Donc les patients suspects arrivés aux urgences étaient testés. Et une fois qu'ils étaient positifs, ils venaient chez nous. Enfin, c'était un peu le tampon. Notre travail, c'était aussi de sur des décisions qui sont forcément collégiales, hein, de diriger ou non les patients vers la réanimation. Qui va en réanimation, qui n'y va pas, pourquoi ? Et ça, c'est un gros débat éthique, hein, qui a été soulevé pendant cette crise. Ce qui se jouait, c'était déjà l'âge, c'est un facteur plus que important dans ce débat-là, et les comorbidités. On a moins de chances d'aller en réanimation si les réanimations sont saturées. Et on a eu très très peur pendant toute cette crise aussi de manquer de respirateurs, de manquer de place en réanimation. Mais on pense aussi à l'après-réanimation. C'est pas sans conséquences pour une personne, surtout d'un certain âge. Il y a un travail de rééducation énorme derrière. Ça laisse pas sans séquelles. Il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre à manger, à se lever, à marcher. Donc c'est quand même pas sans risque chez une personne d'un certain âge. Il faut aussi peser le bénéfice-risque d'une hospitalisation prolongée en réanimation. Dès l'arrivée du patient, on statuait le degré d'investigation, on va dire, et on déterminait si ce patient se dégradait, est-ce qu'il allait en réanimation ? Oui, non, pourquoi ? C'est une décision médicale, c'est plusieurs médecins, c'est une entité, c'est une équipe qui décidait.
En quoi c'était difficile pour vous ce débat éthique à votre échelle ?
Ça révèle un dysfonctionnement d'un système de santé publique. Comment ça se fait qu'on n'ait pas assez de lits de réanimation, qu'on soit pas, ça donne l'impression qu'on n'est pas prêt à la catastrophe, quoi. on est obligé, c'est, je pense que c'est inconscient, mais on est obligé de faire à un moment donné des transferts et de se dire oh ben mince, si ça avait été mon père, mon beau-père, mon grand-père, est-ce que lui il aurait eu sa chance en, et sa place en réanimation? Et quand on a dans notre entourage des gens qui ont des comorbidités ou des maladies invalidante sur le plan cardiovasculaire, de se dire que peut-être lui, il aurait pas eu forcément sa place en réanimation, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Mais oui, oui, c'est laisser la place à celui qui a le plus de chances de s'en sortir, hein. C'est de manière entre les lignes, c'est un peu comme ça que ça se dessine, hein. Mais c'est vrai que c'est lourd, à mon avis, c'est lourd en responsabilité et en conséquence sur les soignants, hein, c'est sûr. On y repense. Et c'est sûr qu'il y a des questions qui se bousculent dans notre tête. Et si ce patient-là avait eu sa place en réanimation, est-ce qu'il s'en serait sorti? Et pourquoi lui, il l'a pas eu? Et pourquoi l'autre, il y avait plus le droit? C'est sûr que c'est des questions qui vont bousculer un peu. Hein.
Mais vous repensez à certains, par exemple?
Oui, ça m'arrive, oui. Oui, après, tous les patients qu'on a soignés ne se sont pas dégradés. Il y a beaucoup de patients qui ont fait des formes de Covid où une hospitalisation en médecine était amplement suffisante. La seule chose qui n'était pas dans nos cordes, c'était l'assistance respiratoire. On parle de la crise de vocation pour beaucoup de soignants à l'issue de cette pandémie. Il y a beaucoup d'infirmières qui veulent changer de métier à l'issue de tout ça, qui ont mal vécu cette crise et les conditions dans lesquelles elles ont dû travailler. Moi, je pense que je ne fais pas partie de ces gens-là. En l'occurrence, ça m'a peut-être confortée dans ma vocation. Je pense que pendant cette période, je ne me serais vue à aucun autre endroit et je me voyais que là, que à l'hôpital, en première ligne face à cette pandémie, quoi.
Annabelle, infirmière qui a pu éprouver et confirmer cette vocation de soignante, elle souligne aussi la pénurie de places en réanimation en France pour prendre en charge des patients atteints du Covid-19 dans un état critique. Alors où en est-on aujourd'hui, Charlie ?
Dans le pays, on peut compter 6000 lits en réanimation contre 5000 avant la phase critique d'avril. Mais les projections prévoient pour mi-novembre 9000 patients nécessitant une prise en charge en réanimation. Au printemps, certains patients étaient transférés dans des hôpitaux, parfois loin de leur domicile, pour trouver une place en réanimation. Aujourd'hui, cela pourrait ne plus être possible dans les mêmes conditions parce que sur l'ensemble du territoire, les hôpitaux sont en voie d'être saturés s'ils ne le sont pas déjà. On va retrouver la psychothérapeute Marie de Hennezel qui publie « L'adieu interdit ». Elle met en avant la souffrance des soignants, elle qui était en contact avec nombre d'entre eux pendant le confinement. Elle intervenait bénévolement sur une plateforme d'écoute et d'aide psychologique à destination des soignants.
Alors j'ai effectivement entendu beaucoup de choses de la part des soignants, j'ai lu aussi beaucoup, j'ai vraiment bien perçu la souffrance de soignants qui étaient obligés d'appliquer des consignes qui étaient à l'opposé des valeurs qu'il est porté, des valeurs de soins, de respect de la personne. La personne est une personne unique qui sait faire des choix. Les personnes âgées dans les EHPAD ne sont des citoyens comme les autres. Ils sont capables de penser, de dire ce qui est important pour eux. Les soignants qui sont proches d'eux, qui les connaissaient depuis longtemps, se sont vus imposer des mesures qu'ils ont trouvées cruelles. Isoler, interdire les visites des familles au début, hein, interdire même de voir une bonne amie avec laquelle on avait l'habitude de parler tous les jours à l'intérieur de l'EHPAD, se trouver isolé dans une chambre. Donc pour éviter la mort dans les EHPAD, on va imposer des mesures qui vont entraîner la mort. Et j'ai même entendu dire que dans un EHPAD que je ne citerai pas, mais on avait refusé l'ouverture des fenêtres, c'est-à-dire les personnes ne pouvaient même pas regarder le ciel, respirer, parce que la consigne était « on n'ouvre pas les fenêtres par peur des suicides ». On voit là des consignes strictement inhumaines. Et ils ont été vraiment malmenés, les soignants. Et puis, ils étaient pris entre des dilemmes, entre la peur de contaminer, la peur de rentrer chez soi en ramenant le virus. Il s'agit aujourd'hui de prendre en compte cette dimension parce que ce n'est pas fini.
Vous évoquez la question du tri des patients.
Alors j'ai été alertée sur cette question du tri par un directeur d'EHPAD que j'ai beaucoup interviewé, Vincent You, qui est dans les Charentes, qui n'a pas été touché par la première vague, mais qui me disait qu'il réfléchissait déjà à l'intérieur de l'EHPAD à ce qu'il appelle la liste des élus, c'est-à-dire qui serait éligible à la réanimation. Donc qui on enverrait éventuellement pour aller en réanimation. C'est vrai qu'envoyer aux urgences, envoyer à l'hôpital des personnes qui sont très près de la mort de toute façon, je veux dire Covid ou pas, qui sont dans les derniers mois de leur vie, qui ont beaucoup de comorbidités, c'est évidemment leur imposer une souffrance et il vaut mieux accompagner à ce moment-là les personnes et qu'elles puissent mourir dans leur lit. Tout le monde a été, je dirais, traité de la même manière. Effectivement, ça a été un geste extrêmement difficile pour les soignants. Certains disaient que de mettre un corps dans une housse et de ne pas pouvoir, sans toilette mortuaire, hein, ce qui est un rituel aussi. Beaucoup de soignants mettent dans les gestes de la toilette mortuaire, je dirais, vraiment donnent du sens à cette toilette. Hein. C'est un dernier rituel d'accompagnement, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'était extrêmement violent pour eux.
Et certains évoquent aussi le côté presque animal de ce geste, traiter les gens comme des animaux.
Absolument, c'est le sentiment, oui. Des opérateurs funéraires aussi qui n'osaient pas toucher le cercueil, comme si le cercueil était contaminant. C'était une perte d'humanité. Le sentiment de n'avoir pas pu, je dirais, effectuer ces rituels pèse très très lourd dans le vécu des personnes, des soignants et des familles.
Vous citez un directeur d'EHPAD qui vous a dit « Tous les efforts que nous faisons pour considérer nos anciens comme des citoyens à part entière, tout cela est suspendu. »
Ça, c'est très grave. Hein, c'est très grave. Les personnes sont des citoyens à part entière. Ils sont chez eux. Ils ne sont pas en prison. Ils ne sont même pas à l'hôpital. Ils sont chez eux, hein, dans une chambre qui est leur chez-soi. On ne leur a jamais demandé leur avis.
Vous dites que ce confinement et ce qui s'ensuit est peut-être l'occasion inédite de renforcer l'humanité. Vous citez l'exemple d'un EHPAD où on a mis en place des aides d'honneur pour accompagner les défunts.
Ça, c'est un EHPAD qui est près de Montpellier, où effectivement, il y a une vraie éthique, une culture palliative, c'est-à-dire une réflexion autour de l'accompagnement de la fin de vie de ces résidents. Et qui va jusqu'à, justement, au lieu de faire passer le corps par la petite porte, je dirais la porte qui est destinée aux poubelles, comme c'est fait quasiment partout, ont décidé de faire sortir la personne par la grande porte, avec une haie d'honneur constituée de soignants, de familles, sur une musique qui a été choisie par le résident de son vivant, pour sa haie d'honneur. C'est une pratique, un rituel qui a été mis en place déjà depuis plusieurs années, mais qui a été poursuivi pendant le confinement. Ils n'ont pas eu beaucoup de décès, parce que c'est une région, la région de Montpellier est une région qui a été relativement préservée. Je crois que beaucoup d'EHPAD ont tiré les leçons de ce confinement, de ces 3 mois de confinement. Dans beaucoup d'endroits, on réfléchit à, je dirais, cette difficulté de, à la fois d'être dans la protection et dans le respect de la liberté, ce qui est un équilibre difficile à tenir.
Entre protection et liberté, nous voilà à nouveau au cœur de ce débat.
Oui, pour la psychologue Marie de Hénozel, il faut s'arrêter pour réfléchir à tout ce qui s'est joué, toutes les décisions prises depuis le début de la pandémie, pour ne pas revenir à des cauchemars d'inhumanité, comme elle les dénonce. Annabelle, infirmière, nous raconte les fins de vie qu'elle a dû accompagner d'une manière toute particulière.
Il y a eu des semaines, moi il y a eu une semaine où sur 4 jours, j'ai perdu un patient par jour. On s'est retrouvé face à des patients qui étaient en fin de vie, mais qui étaient endormis, qui étaient sédatés, donc... Il y a même des patients de fin de vie avec qui j'ai eu aucun contact visuel ou auditif, hein, qui étaient juste en train de partir doucement, et puis on faisait en sorte que tout se passe bien jusqu'au bout, quoi. La fin de vie, c'est un processus complètement naturel qui fait partie de notre boulot aussi. C'est l'accompagnement de la fin de vie, c'est une de nos cordes, hein. C'est des décès à l'hôpital, on en a tous les jours, pas forcément qu'avec le Covid. Mais par manque de, à cause de la précipitation, à cause de la situation sanitaire, à cause de plein de réponses qu'on n'avait pas nous-mêmes soignants, on n'a pas pu faire des accompagnements de fin de vie dignes de ce nom, quoi. Parce que pour eux, c'était très impersonnel de voir des gens déguisés en limite en cosmonautes arriver dans leur chambre toutes les 8 heures. Et puis, ça a changé toutes les 8 heures. Et puis, des gens qui arrivaient dans leur chambre toutes les 2 heures. Ils ne savaient même pas si c'était les mêmes personnes que 2 heures avant. Et je pense que déjà, ça a un côté très anxiogène pour eux. Alors j'ai essayé moi de tous les jours, je prenais un petit bout de sparadrap, j'écrivais mon prénom dessus, je faisais un petit dessin et puis je le collais sur ma blouse en espérant que ils arriveraient à mettre un visage, bah, pas vraiment un visage parce qu'on voyait pas nos visages, mais à reconnaître une voix, un regard, à l'associer à un prénom. Et là, les visites étaient interdites dans les unités Covid. On a eu une tolérance. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont eu une tolérance au niveau des visites, et surtout en cas de mort imminente. Donc, on autorisait la visite d'un proche. C'était un par un. Mais ce qui était difficile sur ces fins de vie-là, c'est que, oui, on n'a pas pu faire intervenir les proches comme on le fait d'habitude, ce qui est très important. Et puis, c'est des familles qui vont avoir du mal à faire le deuil de leurs proches perdus du Covid.
Sentiment d'impuissance, de fatalité partagé par Annabelle, infirmière dans un hôpital de la PHP à Paris, et qui fait écho au récit de nombreux soignants pendant cette période.
Priorité santé, reportage.
Covid, le deuil impossible, reportage témoignage recueilli par Charlie Dupiau, aujourd'hui dans Priorité santé. Est difficile de raconter, Charlie, ses deuils sans donner la parole à ceux qui travaillent au plus près de la mort.
Bruno Carnero est directeur d'une agence de pompes funèbres, les Pompes funèbres de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris. Son agence est spécialisée dans le rapatriement des défunts de l'étranger, en Europe et ailleurs. Il nous raconte les protocoles imposés par le Covid-19 et la difficulté de pratiquer des rites funéraires dans le respect des traditions.
Alors, pendant le confinement, dans le mois en fait qu'on a eu vraiment beaucoup de décès, c'était en avril, on a eu à peu près 4 fois plus que d'habitude. C'était nous... On a une petite pompe funèbre à Paris 20e. Ici à Paris, dans la région parisienne, ici autour, il y en a des centaines. Alors si nous, on a travaillé autant, j'imagine les autres. Nous, c'est, franchement, ça fait peur, quoi. Parce qu'on dirait que c'était la fin du monde, quoi. Il y avait des décès partout. On n'est pas habitué, même si on est dans les pompes funèbres, on n'est pas habitué à avoir autant de décès. Le téléphone, il n'arrêtait pas, du matin au soir. Les familles nous contactaient par téléphone ou par mail. Franchement, avec toute l'information qu'il y avait à la télé et toute l'information aussi que les hôpitaux y donnaient aux familles, la plupart des familles, elles nous contactaient ou elles venaient ici. Elles savaient déjà la plupart des choses. C'est-à-dire qu'elles savaient déjà qu'elles ne pouvaient pas avoir une cérémonie normale, qu'elles ne pouvaient pas se recueillir à côté de leurs défunts. Eux, ils savaient déjà. Il y a plus de risques en plus. L'information qu'on avait à l'époque, c'est que le corps, même après le décès, il était contagieux pendant un moment. Alors, c'est-à-dire que notre personnel qui allait faire la maison bière et qui allait manipuler le corps, bah, il y avait toujours un risque de contamination. Alors, il fallait juste prévoir des équipements et tout ça, masques, gants, combinaisons et tout ça.
Comment vous et vos employés, vous avez vécu ce risque-là ?
C'était même plus que ça. Il y a eu beaucoup de gens qui sont refusés de. En fait, dans les pompes funèbres, il y a des sociétés aussi, des sous-traitants et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui refusaient en fait de faire le travail. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient pas courir le risque. Ouais, à peu près dans les 20%, quand même.
Et comment vous faisiez alors face à cette pénurie de main-d'œuvre ?
En fait, ça retardait le tout. En fait, l'enterrement et le tout, hein, la prise en charge, au lieu d'être instantanément tout de suite trop rapide, bah, ça prenait quelques jours. Bah, là, du coup, on voyait pas le corps, il était dans une housse mortuaire, doublée justement pour éviter le contact direct avec le corps. Alors, le problème, on est arrivé à un moment pendant le confinement, et ça c'est important par contre de dire que on gérait pratiquement tous les décès comme si c'était des Covid. Des gens qui n'ont pas été testés, on ne pouvait pas prendre le risque. Alors, on les a traités comme si c'était du Covid. Au lieu de transporter le corps dans un funérarium, au lieu de transporter le corps dans un endroit pour qu'on puisse faire un recueillement pour la famille, bah là, du coup, il fallait fermer le cercueil tout de suite.
Ça veut dire que pour les familles, il n'y avait pas de moment pour dire au revoir.
Exactement, exactement. Pour l'étranger, c'était encore pire. Parce qu'en fait, les frontières, elles étaient fermées. Alors après, ça dépend. On a fait beaucoup de rapatriements ici en Europe. Nous, on arrivait quand même à amener les défunts dans son pays. En fait, les familles, ils pouvaient pas y aller. C'est-à-dire qu'il fallait faire l'enterrement ou avec de la famille qui était sur place là-bas, ou alors sans famille. Pour tout ce qui est en dehors de l'Europe, là, par contre, c'était vraiment compliqué. Alors déjà, on n'avait pas de vol. Alors, il y avait deux possibilités. Oh, les gens, ils changeaient vraiment d'avis. Ils enterraient leurs défunts ici en France. Oh, alors, on attendait à l'aveugle parce qu'on ne savait pas trop, en fait, quand est-ce qu'on allait avoir des vols et tout ça. C'est vrai qu'on a laissé quelques défunts, par exemple, au funérarium d'Orangis, le funérarium qui a été ouvert exprès pendant cette période-là.
Le funérarium d'Orangis, c'est en région parisienne et c'est là où on a déposer des défunts qui étaient décédés du Covid, oui. Momentanément.
Exactement. Normalement, on fait un enterrement dans les 6 jours après le décès. Et là, on s'est retrouvé à faire des enterrements 15 jours après, voire 3 semaines, parce qu'en fait, la famille, elle voulait patienter pour savoir s'ils avaient à avoir un vol ou pas pour pouvoir partir dans leur pays, quoi. Par exemple, en Afrique, il y a eu beaucoup de rapatriements au Mali. On a normalement des vols tous les jours, toutes les semaines, c'est les mêmes avions que l'on utilise pour voyager. Et là, en fait, il n'y en avait pas. C'était un avion chaque 15 jours, 3 semaines, quoi.
Vous avez travaillé pendant toute cette période-là ?
Oui, oui.
Et comment vous avez vécu ça ? Le fait de ne pas pouvoir faire votre travail
C'est un peu ça, quoi. C'est un peu la sensation de ne pas faire les choses correctement. On ne donne vraiment pas le choix à la famille. Il n'y en a pas le choix, nous. Alors, c'est vraiment la sensation qu'il manque quelque chose, quoi. Ce manque-là, ils ne vont plus pouvoir le combler, quoi. C'est impossible. Pour une famille, on a fait l'enterrement d'une personne et quelques jours après, on a fait l'enterrement de son épouse. En fait, ils habitaient dans un EHPAD dans la même chambre. Bon, ils ont été contaminés, je pense, les deux en même temps. Et en fait, on a été contacté toujours par la même personne, bien sûr, c'était le fils. Bon, il perd son papa, il perd sa maman, qui était assez proche de lui. Ça, c'est dur. Les deux en même temps, pour la même famille, de la même façon, sans recueillement, sans la possibilité de les voir, rien du tout, quoi. Le problème, c'est que la famille, elle n'a pas pu accompagner ni les derniers moments, ni pendant l'enterrement. C'est horrible, quoi.
Alors, quel mot juste trouver dans une telle situation ? Cet agent funéraire semble ému en évoquant le cas de cette famille.
Oui, et il faut savoir qu'en France, le choix du mode de sépulture était libre en fonction des volontés du défunt et de la famille. Donc, soit l'inhumation, soit la crémation. Hein. Pas besoin d'incinérer les corps de personnes décédées du coronavirus, comme ça a pu être le cas en Chine. En France, pendant le premier confinement au printemps, les cérémonies funéraires ont donc été très modestes, très réduites. Seules 20 personnes au maximum pouvaient y assister jusqu'en juin dernier. Aujourd'hui, avec le nouveau confinement en France, les enterrements sont limités à 30 personnes dans le respect des gestes barrières et les cimetières restent ouverts.
Autre question qui s'est posée avec une polémique autour de la morgue provisoire ouverte pour les personnes décédées du Covid-19. Elle avait été installée un temps dans un hall du marché alimentaire de Rungis en région parisienne.
Oui, cette morgue avait été ouverte début avril pour désengorger les chambres mortuaires des hôpitaux et les chambres funéraires privées. Alors, en cause pendant cette polémique, les tarifs pratiqués par l'opérateur privé qui gérait cette morgue, 159 € pour un forfait de 6 jours, 35 € pour chaque journée supplémentaire et 55 € pour que la famille puisse venir se recueillir dans un espace dédié. C'était aux familles de payer tous ces frais. Alors, après la polémique, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner a demandé un contrôle des prix et l'opérateur privé OGF qui gérait cette morgue a dû ensuite prendre en charge tous les frais relatifs à ce funérarium temporaire, funérarium qui a été fermé en juin dernier.
Et pour conclure, Charlie, l'histoire d'une fin de vie liée au Covid qui ne s'est pas, elle, terminée dans la solitude et l'isolement.
Oui, celle d'Octave, 28 ans. Octave, atteint du Covid, comme sa grand-mère, a pu rester avec elle pendant tous ces derniers moments. Il faisait 20 km de vélo chaque jour pour aller la voir. Et c'est le seul membre de sa famille à avoir été autorisé à lui rendre visite dans l'EHPAD où elle résidait.
C'est la psychologue de l'EHPAD qui nous a appelé tous les petits-enfants un par un pour nous prévenir qu'elle allait nous rappeler dans un second temps et mettre le téléphone en haut-parleur pour qu'on puisse faire des au revoir, en quelque sorte, à notre grand-mère. Des adieux, quoi. ce qu'on a fait, chacun notre tour, sachant qu'elle pouvait pas répondre, donc on parle à un téléphone sans retour, sachant que c'est un haut-parleur avec la psychologue qu'on connaît pas qui écoute.
Et justement, qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là ?
Bah, sur le moment, on disait que, bah, on espérait qu'elle passe au travers, qu'elle allait surmonter le Covid, mais bon, 98 ans, c'est mal engagé quand même. À la fin, c'est la psychologue qui m'a demandé s'il y avait des gens de la famille qui voulaient, qui pouvaient lui rendre visite. Comme j'avais eu le Covid juste avant, que j'en étais désormais guéri, a priori j'étais plus contagieux, je devais avoir un semblant d'immunité, on va dire, et j'ai eu l'autorisation par l'EHPAD de lui rendre visite. Et en fait, j'y allais pour lui rendre visite une seule fois seulement, et en fait j'y suis allé tous les jours pendant 15 jours. Je suis le seul à avoir pu aller la voir finalement, donc je suis son petit-fils.
Et quid des autres membres de la famille ? Est-ce qu'ils ont essayé d'y aller aussi ? Ses enfants par exemple ?
Alors bah, les enfants n'étaient pas tous sur Paris, et puis surtout il y en avait beaucoup qui étaient des personnes à risque. Ils avaient isolé un étage entier pour les malades du Covid, donc elle était complètement à l'isolement. Elle était complètement alitée, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas parler. Dans sa chambre à l'EHPAD, ils avaient réussi à trouver un respirateur. C'est très impressionnant le bruit d'un respirateur artificiel. Impossible de discuter avec elle. Tout passe par les yeux et par le fait de se tenir la main. Mais en fait, finalement, elle avait compris que c'était moi qui étais là, elle avait compris que je revenais tous les jours. Mais quand j'y étais, je restais 2 heures, je prenais une chaise, je m'installais à côté d'elle, je lui prenais la main, et puis je la regardais dormir, finalement. J'appelais des gens de la famille, je mettais le téléphone en haut-parleur. J'ai quand même réussi à échanger, avec elle. D'ailleurs, c'était assez amusant, parce qu'à un moment, elle tenait absolument à me parler. Elle a ouvert les yeux, elle a cherché à me parler derrière son masque à oxygène. Donc là, je me suis dit, ces derniers mots, c'est super important. Il faut vraiment que je comprenne ce qu'elle me dit. Première fois, je comprends pas. Là, je suis obligé de lui retirer son masque à oxygène pour vraiment entendre ce qu'elle me disait. Elle m'a juste demandé si je me nourrissais correctement. Donc c'était assez marrant. Elle a tenu son rôle de grand-mère un peu jusqu'au bout, quoi.
Covid, le deuil impossible, un reportage signé Charlie Dupiau. Merci beaucoup Charlie. À la réalisation Didier Bleu, on le remercie également. Et merci à toutes les personnes, soignants, familles, agents des pompes funèbres qui ont témoigné au cours de cette émission. Merci également à Igor Strauss qui a travaillé sur ce reportage. Et demain, dans Priorité Santé, nous allons parler de la santé des dents, hygiène bucco-dentaire. Comment prévenir par exemple la survenue des caries aux différents âges de la vie ? On répondra bien sûr à vos questions en direct. D'ici là, portez-vous bien, à demain, et on continue de bien se laver les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.